Radio Classique.
Sur ses papiers, il s'appelle Stephen Paul, mais la vérité, c'est que tout le monde l'a toujours appelé Steve. Nous allons parler de Steve Jobs. Autant dire que cette émission a été faite sur mesure pour Gérald Carsenti. C'est fait pour toi, ça.
On peut dire qu'en tout cas, c'est mon secteur d'appartenance. Alors, on va parler aujourd'hui, Franck, effectivement, de Steve Jobs, qui est un monument dans le monde de la technologie et de l'informatique. Et puis, on va parler de celui qui a probablement été le précurseur à la fois de l'informatique et de l'intelligence artificielle, quelqu'un qui n'est pas connu de tout le monde et qui pourtant a changé le monde, Alan Turing. Il y a eu un film d'ailleurs sur lui, qui est un film formidable.
Et ce film est l'adaptation d'une pièce que jouait Benoît Solès et qui a eu un très grand succès à Paris.
Absolument.
Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Carsenti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com.
On peut dire que l'un des aspects les plus importants de la vie de Steve Jobs, c'est le fait qu'il soit un enfant adopté. Ça a été déterminant dans sa vie, évidemment. Son père était d'origine syrienne et sa mère était une américaine d'origine suisse, mais il a donc été adopté par une famille californienne, par Paul Jobs et Clara Agopian. Elle était elle-même d'origine arménienne. Ils vivaient en Californie, ses parents, et ils ont été mutés. Voilà l'origine du succès de Palo Alto. Ils ont été mutés à Palo Alto pour que le père puisse suivre sa carrière. Il était machiniste dans une entreprise de fabrication de lasers. C'était la grande époque d'ailleurs du laser qu'on utilisait dans tous les domaines possibles et imaginables. Alors, le jeune garçon est d'une très grande intelligence, incontestablement. Il bénéficie d'ailleurs du soutien de sa mère parce que son éducation, son caractère lui permet très difficilement de suivre des études dans un établissement normal.
Un cadre structuré,
on va dire. Oui, c'est ça, exactement. Il va avoir d'ailleurs quelques petits problèmes avec le milieu enseignant, on en reparlera sans doute. Il faut vous dire, et nous parlions de cela avec Gérald juste avant de prendre le micro, il faut vous dire qu'il avait un caractère bien trempé, le jeune Steve, et qu'il avait tendance à considérer que tout était ou noir ou blanc, si je puis dire. Quand on lui propose un projet, beaucoup plus tard, quand il sera devenu patron de sa nouvelle entreprise, soit il annonce « that's awesome », ça veut dire « c'est génial », soit « that's bullshit ». Ça, j'ai pas besoin de traduire. C'est un peu binaire comme vision des choses. Alors, si l'on connaît Steve Jobs et si l'on parle de lui autant encore aujourd'hui, s'il est devenu d'une certaine manière un peu le gourou de notre époque informatique, c'est parce qu'il a eu, avec deux ou trois autres personnes, mais il a eu l'intuition d'un certain nombre de révolutions technologiques, mais la plus importante, la plus essentielle, c'est l'intuition qu'un jour, les ordinateurs ne seraient plus seulement cantonnés aux grandes salles des grandes entreprises, mais qu'on arriverait à les miniaturiser de telle sorte que chacun pourrait finalement en posséder un chez lui. C'est ce qu'on appelle la naissance de l'ordinateur personnel. À partir de là, il va falloir se donner les moyens de le faire. Alors, il n'a pas de moyens, Steve Jobs, c'est bien tout le problème. On connaît cette histoire qui est une histoire, évidemment, de success story telle que les Américains les aiment beaucoup. On est au milieu des années 70, on est en 75, lorsqu'avec Wozniak, qui est son partenaire, il décide de créer une entreprise. Alors pour ça, il faut quand même qu'il vende son combi Volkswagen. Wozniak a 25 ans, Steve Jobs en a 21 à l'époque. Wozniak, lui, va vendre sa calculatrice Hewlett-Packard 65, qui était quand même un bel appareil, mais avec le peu d'argent réuni, il crée cette petite entreprise. On a beaucoup raconté la naissance d'Apple dans un garage, etc. La vérité tout de même, c'est que très vite, il y a un investisseur qui s'appelle Makula, Mike Makula, qui va apporter quelques 250 000 dollars à cette entreprise qui va évidemment très vite, très vite s'imposer. Mais j'ai bien conscience du manque total de légitimité que j'ai à parler de ça, surtout lorsqu'on est devant Gérald Carsanti qui connaît tout ça mieux que quiconque. On peut te présenter là comme le grand spécialiste de la question. Alors, dis-nous ce en quoi cette entreprise Apple a été une révolution, d'une certaine façon.
Alors, l'entreprise a été une révolution, mais elle est une révolution parce que la personnalité même de Steve Jobs, qui était complexe, hein, c'était quelqu'un de...
Oui, difficile.
Difficile et très complexe, mais en même temps, Steve Jobs était l'incarnation de ce qu'on peut appeler le leadership inspirationnel, dont on a parlé à plusieurs reprises, un peu comme l'était John Fitzgerald Kennedy, dont on a également parlé dans un des épisodes précédents. En passant la vie, finalement, de Steve Jobs au crible, si on la regarde dans le détail, ça devient une évidence, quoi. On voit bien qu'il présente des qualités absolument incroyables, mais il a aussi quelques déviations beaucoup moins enthousiasmantes. Alors, on en parlera également. Mais c'est toujours pareil, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on a rarement des personnages qui sont d'un côté ou de l'autre. Alors, sur les qualités qu'il avait. Alors, la première, c'est que c'est un visionnaire par essence. C'est un visionnaire, c'est un innovateur né. Peut-être pas à l'inverse de Bill Gates, avec qui ils vont être un petit peu en affrontement permanent.
Ce serait intéressant d'ailleurs de les comparer. Hein.
Oui, tout à fait. Et bah, Bill Gates considérait que Steve Jobs n'était pas un ingénieur, alors que lui était un vrai ingénieur, quoi, un codeur. Et puis inversement, Steve Jobs trouvait que Bill Gates n'avait pas de génie marketing. La réalité, c'est que tous les deux étaient des génies, à leur façon. Il a indiscutablement, Steve Jobs, un esprit très entrepreneurial, c'est presque naturel. Il prenait des risques, il faut insister là-dessus, animé par une chose, la passion et la conviction de voir le futur. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité à voir le futur un peu comme un oracle. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je le vois davantage dans cette posture que dans celle d'un PDG classique, en réalité. Il avait cette capacité incroyable de détecter ce que seraient les besoins des consommateurs avant même, d'ailleurs, qu'ils en aient conscience eux-mêmes. Alors, il voyait plus loin que tout le monde. Il était au-dessus de la mêlée, si on peut dire. Ça va être le cas avec tous les produits qu'il va lancer quand il va revenir chez Apple. L'iPod, l'iPhone, l'iPad, l'iCloud. Tout cela sonne comme une mélodie, en quelque sorte.
Moi, j'ai parlé que des tout débuts de ce très jeune entrepreneur. Après, il y a évidemment toutes les grandes révolutions de la fin. On en dira un mot.
Et on en dira un mot parce qu'on verra qu'il y a eu des étapes, en fait.
Mais entre les deux, il y a eu beaucoup de querelles, beaucoup de difficultés judiciaires.
Absolument.
Il y a eu deux expropriations. Enfin, c'est pas rien.
On va revenir sur ça tout à l'heure. Il disposait, alors là, indiscutablement d'un charisme sans pareil, propre à inspirer tout le monde autour de lui, à les inciter à se dépasser. Ça, c'est très important. Il avait cette capacité à leur demander d'aller au-delà de leurs propres limites. Il y a très peu de leaders qui sont capables d'arriver à ce résultat, notamment quand on touchait au domaine de la percée technologique et de l'innovation. Sa démarche allait de pair avec, il faut le dire, une qualité, mais qui peut être aussi perçue quand elle est extrême comme un défaut. Et ça allait de pair avec un extrême perfectionnisme. Un réel sens du détail. C'est ce qu'on appelle, dans le management, on appelle du micro-management. C'est-à-dire qu'il descendait dans un détail. Il avait des phobies, une pour l'esthétique et l'ergonomie. Il était fasciné par ça. Une passion pour le design, en fait, hein, et que l'on peut qualifier, dans son cas, de minimaliste. Et il avait également un goût pour la simplicité. Alors, cette simplicité, je pense qu'il l'a acquise dans le temps par la méditation. Puisqu'on en dira deux mots aussi, ça a beaucoup joué, ça a joué un grand rôle dans sa vie. Allons, gageons que ce qui lui a permis de concevoir des produits conviviaux, intuitifs pour tous, bah c'est justement ce caractère qu'il avait d'aller chercher toujours à simplifier les choses. En américain, on parle de easy to use, facile à utiliser, et c'est vrai que les produits d'Apple sont beaux, sont magnifiques, mais en même temps, faciles à utiliser. Alors, tout ceci le conduisait, les témoignages sont nombreux pour aller dans ce sens. Il avait un caractère très autoritaire, voire brutal à certains moments. Il voulait tout contrôler. Il ne supportait absolument pas qu'on puisse lui résister. Disons que celui qui s'aventurait dans cette direction, il fallait qu'il soit très 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 bien préparé. Pour faire un tour complet de son profil, on peut dire aussi que c'était quelqu'un d'extrêmement persévérant. Il avait cette capacité à ne jamais lâcher quand quelque chose lui tenait à cœur. Alors au final, il va laisser une empreinte indélébile sur l'industrie de la technologie, mais aussi, et c'est pas uniquement dans l'informatique, c'est aussi dans la culture populaire, car ce dirigeant est devenu peu à peu une figure emblématique.
Oui, il a été une figure emblématique aussi parce qu'il a su se mettre en scène. On se rappelle la présentation des différents produits qu'il avait inventés ou qu'il avait en tout cas accompagnés. La présentation était toujours un moment unique. Il savait réunir les journalistes, il savait créer le suspense, il savait mettre en scène l'objet, le rendre quasiment incontournable. Tout ça, ce sont des qualités qui sont moins des qualités d'informaticien que des qualités de commerçant, disons les choses.
C'est une qualité qu'il a avait qui était unique, on peut le dire. Alors, ça tient à un point, c'est d'ailleurs le sujet de notre épisode, hein, c'est le magnétisme.
Oui, voilà.
Et c'est sûr qu'il avait cette capacité à susciter engouement et émotion. D'ailleurs, moi, je le vois plutôt comme un homme de marketing et de communication, et puis de génie créatif, que comme un technologue en tant que tel. Mais il avait cette capacité à entraîner les autres, et alors même qu'il avait une sorte de férocité qui pouvait être impitoyable, brutale, avec son entourage. On disait d'ailleurs de lui qu'il pouvait vous séduire, vous calomnier et vous ignorer. Donc, il pouvait parfois se montrer aussi déloyal. Il y a cette anecdote, je ne sais pas si elle est drôle, mais en tout cas, on la raconte parfois. Il est tout jeune, hein. C'est bien avant la création d'Apple. Et il a une mission de créer, de concevoir un jeu vidéo pour Atari. Atari était une grande société à l'époque. Et le patron d'Atari lui donne un challenge de le faire en un temps très court et lui offre $5,000 pour le faire. Steve Jobs va avoir besoin de Steve Wozniak, son futur co-créateur. Ils étaient trois, en fait, à la création d'Apple.
Oui, mais l'autre est parti au bout de 15 jours.
Mais l'autre est parti très, très rapidement. Et il a besoin de lui, parce que Steve Wozniak est, par contre, un technologue, vraiment. Ils travaillent ensemble. Ils arrivent à faire ce jeu vidéo. Et quelques temps après, eh bien, au cours d'une discussion avec le patron d'Atari, Steve Wozniak découvre, en fait, la somme qui a été versée à Steve Jobs était de $5,000, alors que Steve Jobs lui avait dit « Nous allons gagner $700 ». Et ils ont partagé, il a donné $350 à Steve Wozniak. Il a été très affecté, Steve Wozniak. Il se considérait comme un ami, et c'est assez étrange.
C'est une forme épisode. Un peu de trahison, là, quand même.
Oui, ça, ou alors on peut aller chercher d'autres raisons, mais c'est assez curieux.
Alors, il a été, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est son histoire dans les affaires, c'est qu'il a été viré, comment dire, dépossédé de sa propre entreprise, qu'il est allé ensuite se développer ailleurs et qu'il a été racheté. C'est Next hein, qui est racheté ensuite par Apple. Donc, il dit lui-même d'ailleurs que ça a été une très bonne chose pour lui. Hein. Il dit « Je ne le comprenais pas à l'époque, mais avoir été viré d'Apple a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ça m'a libéré, ça m'a permis d'entrer dans une des périodes les plus créatives de ma vie. Sinon, en quelque sorte, il aurait un peu ronronné les grandes idées qui, ensuite, lorsqu'il sera de retour, si je puis dire, lorsqu'Apple l'aura de nouveau phagocyté, les grandes idées qui vont faire le succès de cette marque, il les a eues pendant ce qu'on pourrait presque appeler une traversée du désert, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, je vais y revenir dans le cadre d'un discours qu'il a donné devant les étudiants de Stanford. C'est un discours intéressant parce qu'il va finalement parler des trois grandes difficultés de sa vie, mais qui en même temps ont été les ressorts de sa vie. Et ça, c'est très intéressant, dont effectivement le fait qu'il se soit fait virer de l'entreprise qu'il avait créée, ce qui paraît invraisemblable.
Oh, mais c'est très fréquent en même temps.
Il parvenait, comme je le disais, à susciter cet engouement. Alors, Steve Jobs, quelque part, on peut se poser la question, comment il parvenait à mobiliser les esprits? Il y avait ce magnétisme. Alors, il était l'homme de tous les paradoxes. Il y a Bob Belleville, qui était à l'époque directeur de l'ingénierie pour le Macintosh de 1982, à 1985, donc pendant les années du Macintosh, en réalité, il livre sans doute la raison la plus évidente pour laquelle Steve Jobs parvenait à mobiliser les équipes. Il dit « Certes, il pouvait se montrer très dur, mais c'était un être exceptionnel. » Alors c'est très simple, mais quand on réalise, on se dit « Bah oui, c'était un être exceptionnel. » Et en fait, quand on a affaire à un génie, eh bien évidemment, on a, même s'il a un sacré caractère, on a quand même envie de le suivre. Alors, il y avait une autre raison. Il portait en lui, je pense, une flamme particulière. Celle qui habite généralement les profils visionnaires dont on a parlé à maintes reprises et qui lui conférait ce fameux magnétisme. Il se dégageait de lui indiscutablement, je le pense vraiment, quelque chose de tout à fait unique, sans doute le fruit d'un parcours très atypique, parce que tu l'as dit, il y a d'abord son adoption, ce n'est pas rien dans une vie, ses séjours en Inde multiples, il vit dans des ashrams,
oui.
Il va pratiquer...
C'était à l'époque, hein, c'était ouais,
à absolument.
D'époque.
Il va pratiquer le bouddhisme jusqu'à la fin de sa vie, il prenait du LSD, et il ne s'en cachait pas, puisqu'il dit, À ce propos, l'une des deux ou trois choses les plus importantes que j'ai faites dans ma vie. Il ira même jusqu'à dire que cette substance est une des raisons de sa réussite, et de rajouter, on parlait de Bill Gates tout à l'heure, Bill Gates aurait l'esprit bien plus ouvert si, plus jeune, il avait essayé l'acide une fois ou s'il s'était rendu dans un ashram.
Je précise évidemment que nous ne faisons pas du tout l'apologie de la drogue, hein, en disant ça.
Il faut le préciser tout de suite.
Tout le monde n'est pas Steve Jobs.
Oui, tout le monde n'est pas Steve Jobs, et en plus de ça, même si d'autres peuvent avoir du talent, la réalité c'est que la drogue, c'est pas vraiment la solution. Tel un moine, il avait cette capacité incroyable de se détacher sur des choses superflues. Ça, c'est quand même une grande qualité pour un leader. C'est-à-dire, dans la complexité de tout ce que l'on fait, être capable de sortir de ce qui, finalement, de ce qui brouille la vue de tout le monde pour en dégager l'essence. Être en harmonie avec les autres, au fond, finalement, ça l'intéressait que moyennement. C'était pas...
Même pas du tout, je crois.
Oui, il avait besoin des autres. Mais fondamentalement, c'était plus un besoin d'avoir autour de lui des talents. C'était pas vraiment son sujet, par contre, de créer quelque chose d'harmonieux. Voilà. C'était pas ça. C'était atteindre ses objectifs qui comptaient. Et il parvenait, alors ça c'est un point très important pour comprendre Steve Jobs, il parvenait à se créer une réalité parallèle à laquelle il finissait par croire lui-même. L'un des dirigeants d'Apple, Bob Tribble, a même inventé un terme à ce sujet pour le définir encore mieux. Il a appelé ça le champ de distorsion de la réalité. Et c'est devenu quelque chose qui a été repris par plein de personnes. Alors ce Bud Tribble avait emprunté ça à la série Star Trek pour décrire en fait le charisme de Steve Jobs et le magnétisme qu'il dégageait, notamment quand il parlait aux équipes techniques et en particulier aux équipes Macintosh. Alors ce magnétisme de Steve Jobs, on le retrouvait dans ce que tu disais tout à l'heure, Franck, ses keynotes, ses interventions, qui étaient de véritables one-man show, on peut le dire, où il captivait littéralement son auditoire, et il avait cette fameuse formule. Il ne terminait pas une présentation sans dire « one more thing », une chose encore. C'est-à-dire qu'en fait, il avait fini, il avait présenté un produit qui était fabuleux, et il disait toujours « one more thing », c'est-à-dire j'ai encore une chose à vous dire.
Son côté Columbo, encore une petite question.
C'est ça. Et là, il annonçait soit un nouveau produit, soit une nouvelle idée. C'est assez fantastique et ça marchait à tous les coups. En fait, il savait se mettre en scène, c'est indéniable.
Tu parlais à l'instant de la réalité parallèle introduite, créée d'une certaine façon par Steve Jobs, par ce champ de distorsion de la réalité qui fait qu'il fait entrer les autres dans une sorte de bulle qui lui est particulière, mais qui en même temps est suffisamment attrayante et suffisamment adaptée pour avoir tout de suite l'assentiment des autres. Eh bien, je me demande si cet aspect-là n'est pas assez lié au tempérament scientifique en général et à l'esprit des mathématiciens en particulier. Et il nous a paru intéressant de comparer le parcours et la personnalité de Steve Jobs, parcours et à la personnalité d'un très grand mathématicien, un prodige, alors qu'il est né, lui, trois générations plus tôt, hein, en 1912. Il est né à Londres, hein, c'était un Anglais, qui s'appelait Alan Turing. Ce Alan Turing était une sorte de petit génie. On sait que quand il est enfant, il s'arrête sous les lampadaires pour regarder les numéros de série. Ça donne quand même une idée du côté un peu autiste, sans doute, de cet enfant qui apprend à lire en moins d'un mois, enfant très solitaire, qui trompe son ennui en passant des heures et des heures à lire tout ce qui peut de près ou de loin lui tomber sous la main, qui s'intéresse à toutes les disciplines, mais tout particulièrement aux sciences. Et dans les sciences, il y a très tôt, hein, puisque c'est encore un gamin, il y a un sujet qui l'intéresse plus que les autres, qui est la cryptographie. Qu'est-ce qu'on appelle la cryptographie? C'est la science des codes. Est-ce que c'est un moyen pour lui d'échapper à toutes les brimades qu'il subit à l'école? On est dans l'école britannique de cet entre-deux-guerres, avec en plus un tempérament particulier chez cet enfant, qui est une victime, disons les choses. À 15 ans, il va montrer à son prof de maths la suite infinie d'une fonction tangentielle. Tout le monde est un peu stupéfait. Il va être reçu premier au King's College, à Cambridge, vous imaginez. Et à 24 ans seulement, alors qu'il n'a même pas encore son doctorat de mathématiques, il répond à une question très importante. Peut-on dire si un énoncé est vrai ou faux? Et pour ça, il va inventer une machine capable de déterminer si une proposition peut être ou non démontrée. Là, c'est quand même autre chose que la calculette de Monsieur Pascal, si étonnante celle-là soit-elle. D'une certaine façon, on peut dire que cette machine capable de démontrer si une proposition est ou non démontrable, c'est un ordinateur, tout simplement. C'est d'une certaine façon le premier ordinateur. On est encore dans les années 30, à l'époque. Il va d'ailleurs partir pour les États-Unis, à Princeton, Turing. Et comme à Cambridge, évidemment, il bénéficie d'une très grande bienveillance. On l'aide dans ses recherches. Il reviendra ensuite en Grande-Bretagne, où il donnera des cours non seulement de maths, mais également de philo. On s'approche là de la guerre, et c'est dans le cadre de la guerre qu'il va réussir à percer, vous savez, le code de la célèbre machine, le mystère Enigma. Il a été transféré pour cela à l'école gouvernementale du code et du chiffre de Bletchley Park, et c'est dans ce cadre qu'il va donc percer le mystère d'Enigma. Il va créer une sorte de machine pour décoder la machine allemande, c'est ça en fait. C'est ce qui va faire sa célébrité, bien entendu. C'est ce qui va faire aussi sa grande fragilité, sa vulnérabilité. On pourrait peut-être dire un mot aussi des vulnérabilités de ce Alan Turing, qui notamment a été l'un des premiers à souffrir ouvertement d'une homosexualité qui, à l'époque en Grande-Bretagne, était particulièrement mal vécue, bien sûr.
Oui, on va y revenir parce que en affirmant son homosexualité, finalement, il a un peu signé la fin de sa vie.
Exactement.
C'est un drame absolu. En fait, Alan Turing, d'une certaine façon, c'est le premier hacker qui ait jamais existé.
Oui, mais c'est ça. Il a cassé le code, en fait.
Oui, c'est le premier hacker, donc c'est lui qui a initié finalement ce mouvement. Alors, je voudrais commencer par autre chose. Je dirais qu'il y a une pomme croquée posée sur la table de chevet à côté du lit où l'on retrouve Alan Turing mort. On a conclu au suicide. On retrouve du reste du cyanure lors de son autopsie et on pense évidemment à la pomme croquée qu'il aurait ingurgité. Mais en fait, en réalité, la pomme n'a jamais été analysée, donc on n'a jamais su s'il y avait du cyanure dans la pomme. Et puis, on n'a surtout pas trouvé de morceaux de pomme dans son estomac. Donc, c'est étrange. Alors, c'est encore plus étrange lorsque l'on songe au logo et au nom de la firme
Apple,
créée par Steve Jobs, Apple, et en plus aux couleurs arc-en-ciel, qui symbolise, nous le savons bien, le mouvement LGBT, communauté à laquelle appartenait Alan Turing, comme on vient de le dire.
Oui, alors à une époque où cette communauté n'existait pas, n'était pas constituée.
Elle n'était pas encore constituée, mais c'était quand même un signe
précurseur.
Alors, est-ce que c'est un hommage de Steve Jobs à ce génie? L'intéressé, en tout cas, Steve Jobs, va le démentir, mais s'il fallait jeter une nouvelle pièce au dossier pour se poser vraiment la question, je dirais que on a découvert que la variété de la pomme qui était posée sur la fameuse table de chevet d'Alan Turing, elle s'appelait Macintosh. Alors là, on se dit, il n'y a peut-être pas autant de coïncidences et de hasards dans la vie. Alors Steve Jobs admirait en fait son aîné, puisque Alan Turing c'est le père de l'informatique et de l'intelligence artificielle, c'est celui qui a été le premier à concevoir qu'une machine pourrait penser. C'est un précurseur incroyable, c'est un génie mathématique comme tu l'as dit, qui va déjouer tous les plans allemands. Il était le champion de la cryptologie. Alors c'est la science du secret, cela englobe, selon la définition, la cryptographie, soit l'écriture secrète, et la cryptanalyse, qui est l'analyse de cette dernière. Alors rappelons aussi que
l'idée c'est de casser les codes secrets de l'ennemi,
absolument.
Tout simplement.
Alors, de l'ennemi, ou même, ça a été utilisé à maintes reprises dans l'histoire, dans l'industrie. Rappelons aussi que le terme même de crypto provient du latin et du grec qui signifie ce qui est dissimulé, ce qui est caché.
Cryptos,
alors,
oui,
peut-on le voir comme le premier hacker dans l'histoire humaine, comme je le disais tout à l'heure, le code breaker Enigma, de la machine Enigma allemande? Si l'on considère la forme moderne telle qu'elle est aujourd'hui, oui, sans aucun doute, mais la dissimulation a toujours existé. Donc, est-ce que c'est le premier? Oui, dans la forme moderne, En réalité, Jules César utilisait des codes pour en prendre un, et j'en prends un deuxième exemple, c'est Richelieu, qui a cassé les codes qui étaient utilisés par les protestants lors du siège de la Rochelle pour communiquer avec l'extérieur. Donc on voit bien que ça a toujours plus ou moins existé. Alors Alan Turing a longtemps été ignoré, malgré tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a fait de fabuleux, pour nous tous. En le connaissant mieux, on ne peut qu'être émerveillé par son intelligence et pour ses qualités de visionnaire. C'est un personnage d'une certaine façon romantique, on peut le dire. Il était connu pour être introverti, réservé. Alors certains affirment, sans qu'on en ait la preuve absolue, qu'il était bègue. D'autres le présentent comme ayant des signes du syndrome d'Asperger. Là non plus, on ne peut que se fier à certains dires, mais il n'y a pas d'affirmation réelle. Il était souvent, en tout cas, absorbé par ses travaux scientifiques, ce qui, au fond, lui laissait très peu de place pour les relations sociales. Alors, Steve Jobs avait des relations, bien sûr, mais sans doute que là, il y a un point de convergence. Ils étaient tous les deux dans leur monde, dans leur projet. Steve Jobs, sa création, Alan Turing, ses projets de recherche, ils étaient un peu comparables. Turing avait indiscutablement une pensée tout à fait originale, très difficile à suivre parce que d'une intelligence très rare. Sa pensée était souvent très peu conventionnelle. Ça, c'est vraiment ce qu'on a pu observer. Disposer d'une créativité sans pareil. Et c'est ce qu'on va retrouver également chez Steve Jobs tout au long de sa vie.
Pour clore le chapitre de la pomme d'Ève, qui était également le symbole de l'arbre de la connaissance dans la Bible, hein, tout ça est lié, c'est passionnant. Il semblerait que ce qui avait incité Alan Turing à se suicider de cette manière, c'est-à-dire en croquant une pomme qui était pleine de cyanure, c'était tout simplement le dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige, qu'il avait vu 7 fois, dont il était littéralement passionné, captivé. Et ça me donne une idée, nous devrions parler de Walt Disney un de ces jours. Je pense qu'en termes de leadership, c'est pas mal quand même.
C'est vrai qu'il était passionné par Blanche-Neige et les 7 nains, et alors, qu'il y a cet épisode, effectivement, avec la pomme.
Concluons également sur cette histoire d'homosexualité. Il avait découvert cette homosexualité très jeune, hein, et il a eu pas mal d'amants, plus ou moins secrets. Il a fréquenté un certain Arnold Murray, qui l'a volé chez lui à son domicile. Et il a eu la maladresse, on va dire, on est au tout début des années 50 là, d'aller porter plainte à la police. La police fait son enquête, elle découvre que le voleur est le fameux Arnold Murray, qui dit « mais oui, mais en fait, Alan est mon amant ». À partir de là, ça mène une procédure, il est jugé. Alors comme c'est quand même Alan Turing qui l'a rendu de grands services à la nation, on le laisse en liberté conditionnelle, mais on le condamne quand même à une castration chimique qui va le conduire à une dépression terrible et à ce fameux suicide dont nous parlions. Il faudra attendre 2013 pour que la reine Elisabeth annule la condamnation pour indécence grave et turpitude morale. C'est ainsi que les services britanniques avaient qualifié le crime. Bon.
C'est assez invraisemblable quand on y réfléchit.
Oui, c'est assez invraisemblable. Nous sommes dans le cadre là d'un destin objectivement plus tragique et infiniment plus difficile que celui de Steve Jobs, qui lui a été plutôt porté par une société dont il était devenu l'emblème quand même.
Totalement l'emblème. Pour conclure, il y a une phrase qui a été utilisée par Steve Jobs et qui est très importante, « connecting the dots », connecter les points. De chaque difficulté, on peut dire que quand on regarde la vie de Steve Jobs, il a fait un atout, un rebond, ce qui demande une grande, grande force de caractère et ça explique en grande partie sa réussite. Alors, je parlais tout à l'heure de ce fameux discours qu'il a adressé aux étudiants de Stanford. Nous sommes en juin 2005, lors de la traditionnelle remise des diplômes, cérémonie qu'il n'a jamais connue lui-même, puisqu'il n'a jamais été diplômé, finalement. Et c'est du reste l'un des 3 thèmes qu'il va aborder ce jour-là. 3 événements qui vont venir chambouler le cours de son existence. Alors, il est donc adopté par des parents formidables, parce qu'au final, ils étaient de conditions très modestes. C'était pas les parents qui lui étaient prédestinés,
non,
parce que finalement, il devait être adopté par d'autres parents qui ont décidé au dernier moment de ne pas le faire, parce qu'ils préféraient une fille. Alors, ils étaient de conditions modestes, mais ils vont se priver pour lui payer des études au Reed College. Et lui décide, après un certain temps, d'arrêter ses études au Reed College et de poursuivre en auditeur libre d'autres enseignements. Alors, il affirme qu'avoir arrêté ses études au Reed College a été l'une de ses meilleures décisions. Et il poursuit en disant, si je n'avais pas suivi ce cours de calligraphie, parce que c'est un des cours qui l'intéressait, Le Mac n'aurait jamais eu autant de polices d'écriture et des polices à espacement proportionnel. Alors on voit qu'il tirait un avantage de toutes les expériences de sa vie. Alors la vie, c'est aussi des rencontres. Il va rencontrer évidemment Steve Bosniak, qui a été très important pour lui, mais aussi Larry Lang. Alors Larry Lang, c'était un ingénieur et voisin de ses parents, qui le fait entrer dans le club des explorateurs de Hewlett-Packard. Et là, il découvre le premier ordinateur de bureau. N'hésite pas à appeler l'un des deux fondateurs de Hewlett-Packard, Bill Hewlett, de son vrai nom William, c'était un des deux fondateurs, et il l'appelle alors qu'il a 13 ans. Il l'appelle parce que il lui manque des pièces pour construire un fréquence-mètre. Bill Hewlett, impressionné, va lui envoyer les pièces, va lui offrir un stage, et plus tard, va devenir son mentor. Dans la biographie de Steve Jobs, il dira d'ailleurs à quel point il a joué, Bill Hewlett, un rôle extrêmement important. Alors comment peut-on se faire virer de l'entreprise que l'on a créée, lance-t-il aux étudiants, plein d'humour? C'est bien ce qui est pourtant arrivé. Il perd le combat qu'il oppose à John Sculley, qu'il a lui-même recruté. Il va y avoir un conflit entre les deux. Et puis finalement, le conseil d'administration va choisir de se séparer de Steve Jobs. Une péripétie qui finalement sera salutaire pour lui. C'est le deuxième grand événement de sa vie. Il crée Next, puis Pixar, le studio d'animation à qui on doit Toy Story. Il rencontre dans cette période son épouse et revient à la tête d'Apple quand Apple rachète Next. Et là commence la saga des i ou des i, iPod, iMac, iPhone, iPad, iCloud aussi. Les produits d'Apple sont de véritables, c'est des bijoux en fait, hein. Ils sont présentés dans des écrans, c'est ce qu'il faut posséder. Je cite à nouveau Steve Jobs, « Je ne le comprenais pas encore à l'époque, mais avoir été viré d'Apple a été la chose la plus importante qu'il me soit arrivée. » Et puis enfin, la dernière étape, peut-être la plus dure de sa vie, mais qui l'a aidé aussi, dans une certaine façon, c'est son cancer. Alors qu'il a 17 ans, il découvre cette phrase qui va le marquer toute sa vie et qui l'aidera dans cette phase difficile de la maladie. « Vivez chaque jour comme le dernier, un jour, vous aurez certainement raison. » Et c'est une phrase intéressante, mais qui l'a, pour amusante qu'elle soit en tout cas, elle l'a accompagné un petit peu toute sa vie. Il faut suivre, disait-il, ses passions, car la vie est éphémère. La mort est probablement la meilleure invention de la vie, disait-il. Il avait le sens de la formule, et justement, c'était donc ce fameux « connecting the dots », relier les points, qui est devenu un peu emblématique. Et il disait, on ne peut pas relier les points avant ou pendant, on ne peut le faire qu'après. Et on comprend comment les événements s'enchaînent et font finalement notre succès. Alors, oui, je vais finir un peu avec humour en recitant la fameuse phrase qu'il utilisait à la fin, « One more thing ». Il termine sur une autre formule magique, « Stay hungry, stay fool ». Restez affamé, restez dingue. C'est ce qu'il dit aux étudiants de Stanford.
Radio Classique.